Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les résultats tombent au compte-gouttes en Israël. Le parti de droite du Premier ministre et la formation centriste sont au coude à coude. On fait le point dans un instant avec Frédéric Mettezo en direct de Tel Aviv.
Les Syriens rentrent chez eux peu à peu. La situation se stabilise dans le sud du pays. Plus de 150 000 sont revenus depuis environ un an. Et la réouverture du poste frontière avec la Jordanie est effective.
En Suède, c'est une guerre des gangs qui fait rage. Le taux d'homicide augmente, ce qui inquiète les habitants. Reportage à Malmö. La question du jour, Guillaume.
Eh bien, pétrole, à qui profite la flambée des prix de l'or noir ? On en parlera avec Olivier Appert. Il est membre de l'Académie des technologies et conseiller du Centre Énergie de l'IFRI.
Les résultats officiels des législatives en Israël sont attendus dans la journée. Les électeurs étaient appelés à élire leurs 120 députés hier. Deuxième scrutin en 5 mois, car en avril, Benjamin Netanyahou avait échoué à construire une coalition. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour.
En direct de Tel Aviv pour France Culture, quels sont les résultats ce matin ?
Alors les médias israéliens relaient d'un côté des sondages sortis des bureaux et de l'autre le dépouillement toujours en cours avec 92% des bulletins traités selon le quotidien Haaretz. À ce stade, ils nous donnent le bloc de droite avec le Likoud de Netanyahou et le bloc centré-gauche avec bleu-blanc à égalité, environ 55 sièges chacun. Le nationaliste laïque Lieberman aurait une dizaine de sièges et la liste arabe, c'est la sensation de ce vote, une douzaine d'élus. Le leader centré de bleu-blanc, Benny Gantz, propose de diriger un gouvernement d'union nationale, sauf que Benjamin Netanyahou pense lui aussi pouvoir réunir une coalition, mais avec les partis de droite et les partis religieux.
Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Alors d'abord, on espère avoir une photo assez ressemblante de la nouvelle Knesset dans la matinée, peut-être à midi. Les résultats peuvent donc encore changer. Ensuite, le président israélien va recevoir les leaders de tous les partis. Chacun va lui recommander un premier ministre, celui qui représentera le plus de sièges. Gantz ou Netanyahou sera désigné. Et si aucun n'a la majorité absolue, c'est celui dont le parti est arrivé en tête qui sera désigné. Tout cela est compliqué et incertain. Lieberman peut faire basculer la situation. Hier soir, lui a défendu un gouvernement d'union nationale laïque soutenu par son mouvement avec le Likoud et blanc-bleu, mais sans les députés juifs religieux et sans les arabes. Deux autres options sont encore envisageables. Margot, que Netanyahou, s'il est désigné, débauche individuellement des députés du centre et de la gauche. Il est redoutable dans ce genre de manœuvre politicienne. Autre option, plus audacieuse, que le Likoud sacrifie Netanyahou pour débloquer et détendre la situation.
Frédéric Mettezo en direct de Tel Aviv avec Christophe Papon pour les moyens techniques. Frédéric, vous avez d'ailleurs passé la soirée hier au QG du Likoud, parti donc de Benjamin Netanyahou. Vous avez rencontré des militants.
De la techno pour maintenir les militants éveillés. La soirée est interminable, la salle est aux trois quarts vide. Mais à la sortie, Karen approuve Netanyahou, pas question d'une union nationale avec bleu-blanc.
Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, parce qu'ils ont des opinions différentes sur la qualité d'Israël. Il ira avec tous les politiciens de droite et les religieux.
Karen repart optimiste, regonflée à bloc par son premier ministre, alors que Joël, Kippa et fine barbe demandent encore à voir.
Je pense que ce n'est pas un discours de défaite. Il nous dit plutôt « attendons et regardons ». Ce n'est pas une défaite, pour l'instant.
Au QG du Likoud, on en voulait hier soir au nationaliste Lieberman, devenu le grand rival de Netanyahou à droite, mais l'on digérait encore moins le score de la liste arabe, Moti.
Ça me rend très triste. Je ne suis pas contre des députés arabes à la Knesset, mais ceux qui vont siéger soutiennent le terrorisme. Les arabes qui ont voté pour ces députés n'ont pas voté pour eux. Ils voulaient surtout faire obstacle à Netanyahou.
Les militants de droite ne trouvent rien à redire à la campagne de leur champion, persuadés que Bibi a été victime d'un complot de la presse et de la gauche alliée aux électeurs arabes.
En Espagne, les électeurs retourneront aux urnes cet automne pour la 4e fois. En 4 ans, de nouvelles élections seront organisées le 10 novembre. Les partis politiques n'ont pas réussi à s'entendre pour former un gouvernement. Au grand désespoir de Pedro Sanchez, j'ai essayé par tous les moyens, mais ils m'ont rendu la tâche impossible, a déclaré hier le chef du gouvernement socialiste, élu en avril dernier sans obtenir de majorité absolue. On reviendra sur les situations politiques en Espagne et en Israël dans la revue de presse internationale nationale de Camille Magnard à 7h35. Lassés de l'exil, des Syriens regagnent leur pays dévasté par la guerre depuis 2011. Les combats se poursuivent dans la région d'Idlib à la frontière turque, dernière poche à échapper au régime de Bachar el-Assad. Mais ailleurs, la situation est plus calme. Ils sont 153 000 à avoir pris le chemin du retour depuis la réouverture du poste frontière avec la Jordanie. C'était en octobre 2018, les précisions de Christian Chesneau.
Ce ne sont pas encore des retours massifs, mais le flux est régulier. Depuis la fin des combats, à Damas, Alep et dans le sud, les civils qui avaient fui la violence commencent à revenir en Syrie. Quelques 153 000 réfugiés ont regagné leur pays en passant par le poste frontalier jordano-syrien de Jaber depuis sa réouverture en octobre 2018, selon les autorités jordaniennes. Amman affirme avoir accueilli sur son territoire environ 1 300 000 Syriens depuis le début du déclenchement du conflit en 2011. Compte tenu de la stabilisation de la situation dans le sud de la Syrie, les autorités jordaniennes encouragent le retour de ces exilés qui pèsent lourdement sur son économie. Tout comme le Liban, où les réfugiés enregistrés au HCR de l'ONU, estimés à 1 million de personnes, sont aussi invités à rentrer en Syrie. Au pays du Cèdre, les retours se font au compte-gouttes et la situation des Syriens se dégrade. Des tensions entre la population libanaise et les réfugiés sont apparues, notamment sur le marché du travail. En Turquie, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés, plus de 3 millions, là aussi un sentiment anti-syrien se développe au sein de la population. C'est pourquoi Ankara redoute un flux humain si d'aventure le régime de Damas reprenait le contrôle de la poche d'Idlib, dernier bastion de l'opposition anti-Assad.
Et hier, 10 combattants irakiens sont morts à la frontière irakienne. Ils appartenaient à des milices pro-iraniennes dans l'est de la Syrie. Comment répondre aux attaques de ce week-end contre des installations pétrolières saoudiennes? Le président américain est convaincu qu'elles ont été menées par l'Iran. Il se dit prêt à riposter. Il a envoyé hier son ministre des Affaires étrangères à Jeddah en Arabie saoudite. Conséquence de ces attaques, les prix du pétrole ont décollé lundi avant de chuter hier. Le PDG de Total se dit profondément inquiet. Nous n'avons, dit-il, jamais vu une telle attaque entre des pays du Golfe. À qui profite la flambée des prix de l'or noir? C'est la question du jour sur France Culture, juste après ce journal. Elle s'appelait Caroline Hakim, elle avait 31 ans, elle sera inhumée aujourd'hui. Caroline a été assassinée le 26 août dernier dans la rue et en plein jour. C'est l'une des dernières victimes de la guerre des gangs qui sévit en Suède. Des bandes de jeunes règlent leurs comptes avec des armes à feu, parfois même avec de la dynamite. La violence augmente. À Malmö, le reportage de Frédéric Faux.
They have put the bomb here.
Ils ont mis la bombe ici, ils l'ont recouverte de terre et ça a fait boum.
C'était le 4 septembre dernier quand une charge de dynamite a détruit la façade d'un appartement à Malmö. Rien que dans cette ville, on a compté plus de 100 explosions entre 2017 et 2018. Les problèmes entre bandes en Suède se règlent aussi souvent avec des armes à feu. Résultat, le taux d'homicide, qui baissait depuis 20 ans, remonte depuis 2012. Amir Rostami est un universitaire spécialiste de ces bandes.
Cette violence est liée à des réseaux qui sont apparus dans nos banlieues et les conflits peuvent naître pour des affaires de drogue, mais aussi pour une petite amie.
C'est sûrement une affaire de gang ou liée au crime organisé qui est à l'origine de la mort de Caroline Hakim. L'assassinat de cette jeune médecin dans un quartier tranquille a profondément choqué la Suède. D'autant plus que 48 heures après, une autre jeune fille était tuée à Stockholm, également par balle. Deux drames qui ont poussé le roi de Suède, fait rarissime, à exprimer publiquement son inquiétude. Et le gouvernement a invité tous les partis politiques, sauf l'extrême droite, à faire de nouvelles propositions pour mettre fin à cette violence.
Frédéric Faux.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. La France ne sera pas le terrain de jeu des trafiquants de drogue, le message hier du ministre de l'Intérieur en visite à Marseille.
Accompagné des ministres de la Justice, des Comptes publics et de son secrétaire d'État, Christophe Castaner a présenté un nouveau plan anti-drogue. La mesure phare parmi les 55 retenues, c'est la création de l'Office anti-stupéfiant qui devrait être opérationnel dès le 1er janvier. Police, gendarmerie, douane et magistrats, tous les moyens seront mutualisés. Il remplacera l'Office central pour la répression du trafic illégal de stupéfiants. Autre annonce du gouvernement hier, 5 milliards d'euros seront investis dans des start-up françaises. Le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite multiplier par deux d'ici 2025 le nombre de jeunes pousses valorisées à plus d'un milliard d'euros. Elles sont moins d'une dizaine. Aujourd'hui, le gouvernement espère motiver la création de nombreux emplois dans la technologie. Ils avaient créé l'UDE pour fédérer les écologistes français. Le parti vole en éclats, un peu plus chaque jour. 4 ans après sa fondation par Jean-Vincent Placé, l'Union des démocrates est divisée entre ceux qui souhaitent soutenir la politique d'Emmanuel Macron et ceux qui le refusent. Leur conflit ira jusque devant la justice, Rosalie Lafarge.
Pas facile de s'y retrouver à l'UDE en ce moment.
Mathieu Cuip, je suis le secrétaire général de l'UDE.
Christophe Rossignol, je suis donc secrétaire général de l'UDE.
Un titre de personne à l'image de ce qui se passe au sein du parti aux petits milliers d'adhérents. Ils sont plusieurs à revendiquer les fonctions dirigeantes, s'accusant mutuellement de putsch ou d'escroquerie. Mathieu Cuip.
On est victime depuis quelques mois de certains individus qui cherchent à usurper notre marque, notre logo. Ce sont des anciens adhérents qui n'ont aujourd'hui ni droit ni titre pour se revendiquer notre mouvement. En fait, on fait face à une forme d'imposture politique.
L'imposture, ce n'est pas nous, ce sont eux, répond Christophe Rossignol.
C'est très très simple, hein. On a une petite bande qui a fait une fausse AG. Des gens qui, malgré tout, avec un toupet extraordinaire, s'autoproclament président de l'UDE.
Sauf que de ce côté-là de l'UDE, on s'est choisi 2 coprésidents ce week-end, dont le député François-Michel Lambert.
J'ai pas besoin d'exister à travers la coprésidence de l'UDE. J'ai besoin de porter un projet.
Et ce projet, contrairement à ses adversaires du parti, il refuse de le porter en partenariat avec La République En Marche pour les municipales.
La République En Marche aujourd'hui, permettez-moi, c'est une sorte de gloubi-boulga. Vous trouvez tout et n'importe quoi. Et nous ne voulons pas un automatisme de s'y associer. J'invite à ceux qui essayent de voler l'UDE, de tout simplement adhérer à La République En Marche. Ils sont incapables d'avoir quelques distances avec La République En Marche, autant qu'ils adhèrent à La République En Marche.
Tous assurent avoir déposé plainte pour escroquerie, faux et usage de faux. Chacun se montre serein quant à l'issue de l'affaire. En attendant, Jean-Luc Benamias, cofondateur du mouvement et candidat de l'UDE à la primaire de la gauche en 2017, a lui jeté l'éponge. Il démissionne de ses fonctions au sein du parti.
Rosalie Lafarge. Encore une journée ensoleillée sur une grande partie du pays. Aujourd'hui, quelques nuages dans le sud des Cévennes et les Pyrénées avec un risque d'orage. Des nuages aussi près de la Manche et dans le nord. Les températures cet après-midi, vous aurez 19 degrés à Lille, Brest et Strasbourg, 21 à Paris, 25 à Nice et 28 à Bordeaux.